le 81e congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat, du 28 au 30 septembre 2021, en direct du parc des expositions de Bordeaux-Lac, en partenariat avec Procivis, en direct sur Radio Imo et Radio Territoria.
Suite de cette première journée, suite de l'ouverture de ce congrès USH dans les allées du parc des expositions de Bordeaux-Lac, nous sommes toujours sur le stand de Procivis en direct sur Radio Imo et Radio Territorial. Les interviews s'enchaînent, se poursuivent et nous sommes très heureux, très fiers surtout de l'avoir autour de la table dans ce magnifique département qui est la Gironde. Vous, monsieur Jean-Luc Glaise, bonjour.
Bonjour.
Vous allez bien ?
Oui, très bien, je vous remercie.
Et je rappelle que vous êtes le président du département de la Gironde. Ça fait quoi de revoir autant de monde ici dans les allées du parc des expositions de Bordeaux?
C'est presque une redécouverte de ce qu'est la vie normale, puisque nous avions perdu complètement l'habitude de ces rencontres en présentiel avec beaucoup de monde aujourd'hui pour ce congrès. Donc c'est à la fois un plaisir effectivement de voir la vie reprendre, et puis c'est aussi l'intérêt du sujet qui m'a fait venir ici.
Alors quels sont les enjeux justement pour votre département, pour le département de la Gironde sur ces trois jours de salon?
Alors d'abord, il faut savoir que la Gironde, c'est à peu près 58 000 demandes de logement social chaque année, c'est-à-dire 42% de la Nouvelle-Aquitaine. C'est donc extrêmement important, sachant que parallèlement, c'est 10 000 logements qui sont proposés chaque année à la location. Donc on voit bien qu'il y a un différentiel qui est très important. Et donc à ce titre, l'enjeu, c'est d'arriver à produire plus de logements pour héberger le mieux possible les Girondines et Girondins, et aussi les habitantes et habitants qui arrivent, puisque nous avons 20 000 habitants de plus qui nous arrivent ici chaque année.
C'est ça, une croissance démographique dans le département. Comment réussir finalement à concilier ce côté paradoxal entre la production de logements en règle générale et puis ce besoin aussi et cette nécessité de répondre aux enjeux environnementaux incessants et qui sont très prégnants dans la mode de construction? Comment réussir à faire une politique du logement qui permet de répondre à tous ces axes?
Alors, la politique du logement, d'abord quantitative, c'est-à-dire essayer de produire le plus de logements possible pour héberger et pour pouvoir donner un toit à un maximum de personnes, et puis des choses de qualité. Et ça, c'est le deuxième volet, c'est le volet qualitatif. Comment est-ce que nous produisons du logement de qualité, notamment au travers des bailleurs sociaux? Comment est-ce que ces logements sont beaucoup plus économes en énergie, beaucoup moins émetteurs de gaz à effet de serre? Nous avons un exemple un peu extrême ici dans le département qui est expérimental et assez innovant. Nous avons travaillé avec une entreprise qui s'appelle Carnot Computing et qui propose des radiateurs ordinateurs, c'est-à-dire qu'on va capter la chaleur dans les centres de données d'ordinateurs qui réalisent du calcul.
Dans les data centers.
Voilà, dans les data centers qu'il faut refroidir parce qu'ils émettent justement de la chaleur. Donc on va capter une partie de cette chaleur dans un bâtiment aujourd'hui de 5 étages sur Bordeaux. Et à ce titre, le chauffage est gratuit pour les habitants ainsi que la connexion Internet. Donc voilà une manière d'être très innovant
très
dans
concret,
la technologie
très
et en même temps d'être à la fois qualitatif pour le logement et respectueux de l'environnement.
C'est l'un des maîtres mots, ça, l'innovation?
Ah oui, pour le département, c'est le maître mot. Vous savez, moi j'ai un principe qui consiste à dire il faut oser se tromper, mais surtout oser réussir. Donc l'idée, c'est expérimentons, innovons, évaluons ensuite les résultats d'une expérimentation, et si elle est vertueuse, à ce moment-là, nous pouvons la généraliser. C'est la raison pour laquelle nous avons d'ailleurs déployé un dispositif depuis 6 ans qui s'appelle les fabriqueurs d'habitat, et qui permet justement de produire des logements tout à fait nouveaux, beaucoup plus adaptés aux besoins des personnes et surtout à la nature de leur parcours, tout en étant respectueux de l'environnement.
Comment, en quelques mots, concrètement, comment ça se passe?
Alors je pourrais citer beaucoup d'exemples. Je pourrais citer par exemple un habitat partagé sur l'Estiac-sur-Garonne, où des personnes âgées ont fait le choix de ne pas partir en établissement. Donc elles ont imaginé ensemble un lieu dans lequel elles vivraient collectivement, avec des salles collectives, mais avec aussi des lieux qui sont plus intimes et plus individuels. Et donc ce bâtiment est en train de se réaliser au niveau de la commune. Je pourrais citer aussi la manière dont nous avons produit, par exemple, des chalets sur la commune du Teche qui permettent d'héberger des saisonniers touristiques sur le bassin d'Arcachon l'été et d'héberger des sans-domicile fixe l'hiver. Et puis, dernier exemple que nous sommes encore en train de tester aujourd'hui, c'est une maison mobile, c'est-à-dire une maison entièrement autonome qu'on peut déplacer en tant que de besoin, qui aujourd'hui se trouve sur une ferme départementale dans le Médoc, et que nous avons vocation demain, si tout fonctionne bien, à pouvoir la déployer pour justement répondre aux besoins des femmes victimes de violences, aux besoins des jeunes qui se trouvent sans logement, des saisonniers qui dorment dans leur voiture, etc. Donc l'idée, c'est de pouvoir déployer avec beaucoup d'agilité, de souplesse, ce type de solution.
C'est ce que j'allais vous dire, le maître mot, c'est l'adaptation, c'est l'agilité, c'est la souplesse.
Vous venez de le dire, oui. Ce que je dis souvent, c'est qu'il faut être respectueux des valeurs que nous portons au titre du logement social, mais ne pas s'interdire d'être malin, et donc quelque part c'est rendre possible l'impossible.
Quel est votre ressenti un petit peu sur les semaines, sur les mois à venir? Optimisme, méprudence, optimisme, vigilance, un peu des deux?
Alors, jusqu'à présent, il y a quand même beaucoup d'inquiétudes au niveau du logement social, parce que la capacité à produire pour les bailleurs sociaux dépend aussi de leurs recettes et dépend aussi de la capacité pour les communes de permettre à ces bailleurs sociaux d'investir sur leur territoire. Il a été annoncé ce matin par le Premier ministre l'exonération de la taxe sur le foncier bâti pour les communes, enfin dans les communes, et donc qui permet pour les bailleurs sociaux de pouvoir construire. C'est une bonne nouvelle, mais ça ne me paraît pas à l'échelle du besoin en termes de logement social. Il faut que vous sachiez, par exemple, que le département de la Gironde, en 6 ans, a proposé des garanties d'emprunt à des bailleurs sociaux pour 2 milliards d'euros. Et aujourd'hui, ce qui est proposé en termes d'engagement de l'État financier pour toute la France, pour tout le territoire national, me semble largement en deçà de l'enjeu que pose aujourd'hui le logement. Nous avons besoin dans tout le pays de réaliser beaucoup plus d'appartements et de maisons. Et nous savons que sur des départements comme le nôtre, très attractifs, c'est une demande encore plus accentuée, avec la question aussi de la disparité entre les territoires urbains et les territoires ruraux.
Un vrai défi à répondre dans les mois, dans les années à venir aussi. Merci beaucoup Jean-Luc Glaise d'avoir été notre invité sur Radio Immo et Radio Territoria dans les allées de ce salon de l'USH à Bordeaux. Ça y est, il a lieu, il a commencé depuis ce matin. Merci beaucoup Jean-Luc Glaise d'avoir été notre invité.
Avec plaisir, merci à vous.
Et puis moi je vous dis à très vite.
Le 81e congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat, du 28 au 30 septembre 2021, en direct du Parc des Expositions de Bordeaux-Lac, en partenariat avec Procivis, en direct sur Radio Immo et Radio Territoria.